Merci Maïlys, à demain pour un nouveau numéro d'Entendez-vous l'écho.
La compagnie des auteurs, Mathieu Garrigou-Lagrange.
Bonjour à toutes et à tous, merci de nous retrouver pour cette semaine spéciale de la Compagnie des auteurs placée sous le signe des livres parus ces derniers mois et dont nous n'avons pas eu la possibilité de vous parler. C'est en quelque sorte notre session de rattrapage. Aujourd'hui au programme deux œuvres complètes, celle de Mathieu Gallet et de Bret Easton Ellis, toutes deux parues dans la collection bouquins chez Robert Laffont. Et cette émission vous est proposée comme chaque jour par son indispensable équipe Didier Pinault, Anne-Vanessa Prévost, Laurence Millet, Laurence Genepin et Chloé Casmarac, à la console aujourd'hui Pascal Bénard. Dans la deuxième demi-heure de cette émission, je recevrai Cécile Gilbert qui a préfacé les deux volumes regroupant tous les romans à ce jour de Bret Easton Ellis. Elle nous dira pourquoi il lui a fallu du temps pour apprendre à lire cet écrivain si souvent décrié. Mais avant cela, je reçois Jean-Luc Barré, biographe du couple Maritain et de François Mauriac. Il a participé à l'écriture des mémoires de Jacques Chirac et on lui doit aussi un essai sur Charles de Gaulle, entre autres. Il est enfin directeur de la collection Bouquins qui a repris cette année le mythique journal de Mathieu Gallet, disparu en 1986, journal cette fois-ci intégral. Il avait connu en effet une première publication chez Grasset il y a quelques années qui avait été quelque peu expurgée pour ne pas choquer un certain nombre d'oreilles. Et c'est vrai que Gallet pouvait avoir la dent dure comme on l'entend dans ce premier extrait du journal lu par l'acteur Quentin Bayou.
29 novembre. Au masque et la plume, Aragon. Il est venu réciter des passages de son prochain livre, Le fou d'Elsa. Beau, avec le profil net, les cheveux bien blancs, le complet croisé bleu sombre. Un PDG. Il dit quelques mots, précieux, un tantinet poseur. Puis il s'installe et se met à déclamer. Oui, déclamer. Pire que Malraux, mais plus comédie française, enflant la voix au rythme des vers, victoruguesque, ridicule. Les vieilles dames un peu réticentes, un communiste, ne tardent pas à se pâmer, reconnaissant un des leurs, un poète du 19e. Seule dans une loge, Elsa, l'œil mi-clos, hume cet encens, tandis que Bastide, bras croisés, tête basse, adopte l'attitude d'un croyant à l'élévation. Cabotin ou sincère ?
Bonjour Jean-Luc Barré, et je crois que vous êtes très inquiet qu'on confonde Mathieu Gallet, l'écrivain et journaliste dont on parle aujourd'hui, avec le PDG de Radio France. Vous voulez éclaircir les choses
j'ai aucune. Il n'y a pas de confusion possible. Je sais que Mathieu Gallet, le PDG de Radio France, a lu et aime le journal de Mathieu Gallet, journaliste.
Ah, ça, c'est une bonne nouvelle. La dent dure de Mathieu Gallet, le journaliste, il l'avait certainement, et c'est pour ça que les éditions Grasset, quand ils ont publié pour la première fois ce journal de Mathieu Gallet, ont décidé, sans doute avec la famille, de le caviarder. Pouvez-vous nous raconter un petit peu l'histoire de la publication de ce journal, Jean-Luc Barré ?
Il faut d'abord mentionner que Mathieu Gallet occupe d'une certaine manière des postes stratégiques, des postes où il peut voir, entendre, observer. Et parmi ces postes, il y a le comité de lecture de Grasset. Il est dans le comité de lecture. Alors il est aussi, il s'occupe aussi de théâtre, etc. Il fait de la critique littéraire, mais il est au sein, je veux dire, dans le milieu, au cœur du réacteur, si je puis dire. Il observe, il voit, et donc il note. En effet, ce que tout le monde ignore d'ailleurs, on ne sait pas qu'il tient un journal. On le saura à la fin de sa vie, mais donc à l'insu de tout le monde, il observe et il raconte ce qui se passe dans cette maison, et notamment. la cuisine des prix littéraires, entre autres. Et il est bien placé pour l'observer, puisque toute une série de membres de l'Académie sont aussi au comité de lecture. Enfin, il y a évidemment des liens tout à fait étroits. Et donc, à ce moment-là, quand Mathieu Gallet meurt, le journal paraît après sa mort, et effectivement, un certain nombre de gens interviennent pour préparant la publication, dont Jacques Brenner, peut-être Yves Berger, peut-être au-delà, mais des gens qui s'inquiètent de ce qu'il y a là-dedans. Il y a une double inquiétude, d'ailleurs. Il y a une inquiétude familiale sur ce que Mathieu Gallet raconte de ses mœurs, de son homosexualité, dont il ne cache pas grand-chose, ce qu'il raconte, en effet, des mœurs littéraires. Donc, tout cela devient un peu inquiétant, et donc, d'une certaine manière, on va enlever les passages. Voilà. Et alors, ce qui est extraordinaire, d'ailleurs, c'est que ça devient une notoriété publique. C'est-à-dire que non seulement ça se fait, mais on sait que ça se fait. On sait que ça se fait, et puis le temps passe, et puis tout cela dort, d'une certaine manière, pendant quand même plus de 20 ans, et même près de 30 ans. Et donc, et moi, j'ai toujours su ça, et d'abord, j'admirais ce journal, et donc, j'ai toujours eu l'idée, d'une manière d'une autre, un jour, de le republier, si j'avais l'occasion de le faire.
Vous vous souvenez de votre première lecture du journal de Mathieu Gallet?
Oui, c'était en 86, peu après sa mort, 87, je me souviens de ça, et j'avais eu vraiment un choc de lecteur, parce que je trouvais ça, d'abord, l'écriture, le style, c'est incisif, ce style très, très mordant, et puis il y avait une galerie de portraits, moi qui aimais Jules Renard, qui aimais le journal des Goncourt, je retrouvais un petit peu tout cela. Et puis une liberté de ton, et puis aussi une sensibilité personnelle qui me laissait pas indifférent.
Oui. Alors les portraits, il y en a de nouveaux, car l'édition que vous proposez chez Bouquin est augmentée. Donc augmentée non seulement parce que les passages qui avaient été caviardés sont maintenant présents dans l'édition. Ils sont d'ailleurs notés en italique, c'est ça? Ça représente beaucoup de paragraphes.
Pour qu'ils ne passent pas inaperçus. Alors, on m'a un peu reproché ça, notamment des amis chez Grasset que j'aime beaucoup par ailleurs. Ils me disent « Oh, tu exagères un peu. » Oui, évidemment, il fallait qu'on se rende compte de ce qui avait été retiré. Alors évidemment, aujourd'hui, on peut dire que le côté sulfureux, vous savez, on a quand même, je pense que la chose n'a été possible qu'une fois que les derniers protagonistes impliqués n'étaient plus là. Je pense notamment à Edmond de Charleroux, entre autres. Je pense que jusqu'à ce que la disparition d'Edmond de Charleroux, c'était quasiment impossible. Ça paraît incroyable dans ce pays où on parle toujours de liberté, mais il y avait quand même des pressions, des gens qu'on ne voulait pas froisser. Et donc, à ce moment-là, il paraissait possible de le publier, donc les choses étaient plus faciles.
Et vous avez également augmenté cette édition avec les lettres du compagnon de Mathieu Gallet, Herbert Lugert.
Oui.
Les lettres que Mathieu Gallet, en l'occurrence, lui envoyait à lui. Pas l'inverse.
Non, enfin, il y en avait quelques-unes, mais non, je veux dire, ce qui nous intéressait, Herbert l'a très bien compris, c'est d'abord cette correspondance amoureuse qui est très très belle. Vous parlez tout à l'heure des extraits, en effet, qui ont été des portraits, et on retrouve d'ailleurs des passages entre la correspondance et le journal. Par exemple, je me souviens d'un épisode où que Mathieu Gallet raconte d'abord à Herbert sur la mort d'une proche de Chardonne, et Chardonne d'ailleurs est terrible sur les récits de cette mort. Enfin, sur le suicide de cette femme, qui était la femme d'André Bay, le traducteur. Et il raconte ça déjà dans la correspondance avec Herbert, et on le retrouve dans le journal. Je veux dire par là que la correspondance éclaire aussi la fabrication du journal. Et puis il y a une autre partie de son œuvre qui est son œuvre de critique littéraire. Mais les deux se rejoignent hier en permanence. On voit qu'il est aussi incisif dans la critique littéraire.
Je suis un parasite de la littérature, ce mot il en faut. Jamais vous n'avez vu un enfant qui dise « je voudrais être critique littéraire », ça n'existe pas, il veut être chauffeur de taxi ou pompier.
Il y a beaucoup de journalistes ou beaucoup de prétendants au métier de journaliste qui souhaitent devenir tout de suite critique littéraire, ou critique de télévision, ou critique de théâtre, ou critique de cinéma.
Je n'ai jamais été un prétendant à être journaliste, je suis devenu journaliste un peu comme ça par hasard. La seule chose, c'est que quand j'étais petit, j'adorais faire quelque chose que les gens détestent, les explications de texte. Je noircissais des cahiers entiers pour expliquer les sentiments de Phèdre ou de Tartuffe. Mais personne ne lisait jamais, du reste. C'était peut-être la seule chose qui, effectivement, expliquait une vague vocation, mais je crois qu'on devient critique littéraire un peu par hasard. Certainement pas par volonté.
Alors Mathieu Gallet fut peut-être un critique littéraire par hasard, mais il fut aussi, Jean-Luc Barré, un excellent critique, et on le voit très bien dans son journal.
Oui, alors ce que je voudrais quand même dire, il parle de vocation, et en réalité ce qu'il n'avoue pas, c'est que sa véritable vocation, il y a une vocation manquée, et manquée et réussie à la fois chez Gallet, c'est très paradoxal. En réalité, il se destine à une carrière d'écrivain. Et c'est une sorte d'écrivain inabouti. Il publie un premier livre qui passe un peu inaperçu. Il vit à l'ombre de toutes ces grandes figures de la littérature qui sont un peu écrasantes. Et finalement, il va vers la critique littéraire et il va vers le journal secrètement, clandestinement, un peu par défaut. C'est parce qu'il renonce au fond à cette œuvre. Et ce qui, d'ailleurs, je pense, aiguise aussi sa lucidité, parfois sa méchanceté. C'est-à-dire que il n'est pas totalement l'homme qu'il aurait voulu être. Oui, une forme de rancœur, enfin, peut-être vis-à-vis de lui-même, d'ailleurs. Et donc, il devient critique littéraire. Vous savez, il arrive qu'on soit critique littéraire par défaut parce qu'on n'est pas un créateur, pardon pour un certain nombre de critiques littéraires, mais ça peut arriver. On peut aussi concilier les deux. Mais c'est son cas. Il y a chez lui une part de quelque chose qui relève un peu de la frustration. Ceci étant, il est aussi capable d'admiration. Et on le retrouve dans toutes ces critiques littéraires où on voit bien qu'il a, vis-à-vis de Marguerite Yourcenar ou des écrivains qu'on retrouve, Jouhandeau et autres, dans son journal, il est capable de lire ces œuvres-là, de les aimer, de les célébrer, voire de les attaquer. Mais enfin, il y a une intimité, je dirais, de Gallet avec la littérature en général qu'il côtoie, qu'il fréquente depuis toujours et presque en direct à travers tous ces monstres dont il parle.
Donc il est l'homme d'un seul livre de fiction, vous l'avez dit, en 1958, Les vitamines du vinaigre.
Ouais, déjà le mot vinaigre, hein. Il y a quelque chose. Non, il y a chez lui d'ailleurs c'est un démystificateur, quoi. Il y a quelque chose qui tout de suite dans sa vie fait qu'il n'est dupe de personne. Et ce qui est intéressant, c'est qu'il n'est pas non plus dupe de lui-même. Il arrive qu'on soit dupe de personne et dupe de soi-même. Les deux sont chez lui sont très proches et c'est un exercice aussi d'auto-démystification, ce journal. Et on le voit bien dans la période où, non seulement au-delà, par rapport à sa vie privée, mais aussi par rapport à son destin d'homme qui va être tragique.
Et peut-être n'était-il pas dupe non plus de ce que ça représente qu'une carrière littéraire, parce qu'on a l'impression que finalement c'est pour ne pas avoir à rentrer dans le jeu de la carrière littéraire qu'il décide finalement, enfin le décide-t-il, c'est sans doute très compliqué, mais qu'il décide d'une certaine manière, jusqu'à un certain point, de ne pas faire carrière comme écrivain. Qu'en pensez-vous, Jean-Luc?
Moi, je pense que c'est le fait de... Enfin, je ne sais pas si on choisit de ne pas faire carrière. En tout cas, il a vu ce à quoi ressemblaient ceux qui faisaient carrière.
Non, mais c'est-à-dire de refuser peut-être une certaine vanité.
Oui, oui. Et puis un certain statut, une certaine vanité. Et aussi de se retrouver empêché d'une certaine liberté, finalement, de jugement, d'observation. Je pense que c'est un homme très libre et qui, même s'il appartient à des cercles, s'il a des fonctions, etc., il n'est jamais tout à fait dans le milieu. Il est un peu en marge, tout en étant dans le milieu. Enfin, vous voyez, il y a l'espèce de jeu comme ça, mais il observe d'un peu loin les choses. Et je pense qu'il n'a jamais été un notable des lettres. Voilà. Je pense qu'un notable des lettres ne peut pas écrire aussi librement ce qu'a écrit Mathieu Gallet.
Vous diriez qu'il a choisi la vie plutôt que la littérature. On verra tout à l'heure, en parlant de Bret Easton Ellis avec Cécile Guilbert, que Bret Easton Ellis se demandait pourquoi écrire sur le bonheur quand on pouvait le vivre, et que finalement, si on écrit, c'est plutôt sur ce qui est difficile. Est-ce que vous avez le sentiment, Jean-Luc Barret, que Mathieu Gallet, lui, a choisi la vie plutôt que la littérature?
Ah non, on aurait pu le penser s'il n'y avait pas eu le journal. Et je pense qu'en réalité, ce qui permet de concilier la vie et la littérature, c'est le journal. C'est-à-dire, c'était d'abord cet exercice rapide, libre, tellement libre qu'encore une fois, tout le monde ignore qu'il existe, donc c'est une œuvre clandestine. Alors, je ne suis pas sûr qu'il se soit dit qu'il faisait une œuvre à travers ce journal, mais il y a un moment où on prend conscience qu'on fait une œuvre quand on fait un journal. C'est toujours un peu agaçant les gens qui vous expliquent le journal, où ils écrivent leur journal de même. Non, c'est une œuvre, un journal. Et Jules Renard, Julien Green, Léo Tours...
Mais ils publiaient de leur vivant leur journal.
Oui, mais d'abord, je vous rappelle malheureusement que sa vie a été écourtée, donc je ne suis pas sûr qu'il ne l'aurait pas publié de son vivant, ce journal. Je pense que tôt ou tard, il l'aurait publié. Donc je pense qu'il a conscience à un certain moment de faire une œuvre, mais il aime peut-être trop la littérature pour avoir cette forme d'orgueil de se dire qu'il est un écrivain au sens... D'abord, encore une fois, c'est très intimidant et presque écrasant de côtoyer dans sa jeunesse tout de suite Aragon, Chardonne, Mauriac, Morand. Il y a quand même une époque où on ne côtoie que des grands. Mmh. Voilà. Donc c'est plus intimidant que de ne côtoyer que des écrivains moyens.
Alors son travail de critique dans les journaux, parce qu'il a été critique dramatique à Combat, à L'Express, diriez-vous que c'était l'un des meilleurs critiques de sa génération ?
Ça, je peux pas dire ça. En tout cas, il fait partie, surtout sur le théâtre. Je dirais que c'est surtout un grand... il a surtout été un grand critique de théâtre. Et plus que ça encore, il a été aussi... il a adapté, fait connaître en France toute une série d'écrivains, de dramaturges, Édouard Albi, etc. Donc, je veux dire, il est un homme plus de théâtre encore qu'un véritable critique littéraire. Je suis pas sûr qu'il ait marqué du point de vue de la critique littéraire, non.
La compagnie des auteurs sur France Culture. Nous parlons de Mathieu Gallet avec Jean-Luc Barré. Jean-Luc Barré qui fait aussi des portraits, il n'y a pas que Mathieu Gallet. Je vous livre celui que vous faites dans votre préface de Mathieu Gallet. Cet homme à la petite silhouette nerveuse, aux yeux nocturnes, aux lèvres moqueuses, sous des moustaches de hussard mélancolique, qui scrute avec la même implacable intensité de dîner en cocktail, une société littéraire et mondaine en voie d'extinction, dont son journal fixera les ultimes spécimens. Et c'est vrai que c'est toute la saveur de ce journal que d'avoir l'impression d'un voyage dans le temps et dans le Paris littéraire de cette époque-là, Jean-Luc Barré.
C'est peut-être la dernière période, enfin sans être pessimiste, mais où il y a une véritable société littéraire. C'est-à-dire d'abord parce qu'il y a des grands écrivains et qu'il y a des lieux, il y a des rites, il y a des salons, il y a des éditeurs qui eux-mêmes ont des comités littéraires. Enfin, ça existe un peu encore, mais enfin c'est plus tout à fait. On est dans une période d'individualisme de ce point de vue-là. Et c'est vrai qu'il y a d'abord les derniers spécimens de grands écrivains, ce qui ne veut pas dire qu'il n'y en aura pas d'autres dans l'avenir. Mais enfin là, vraiment, quand même, les derniers grands écrivains des années 30 sont presque tous là. Et puis c'est un monde effectivement d'émulation, c'est un monde de méchanceté, c'est un monde de vie. Donc ça, effectivement, c'est, je pense, c'est le dernier tableau littéraire de la France contemporaine.
Alors il voit plutôt les écrivains de droite, les Morand, les Jouandeau, les Chardonne. Bon, il appartient à cette école-là.
Non, parce qu'il voit aussi Aragon, il voit aussi...
Il s'en moque, comme on l'a entendu.
Oui, mais il se moque aussi de Morand, hein. Il se moque aussi de Chardonne. Chardonne, c'est délicieux, les passages sur Chardonne sont merveilleux. En plus, Chardonne est un homme d'oralité. Enfin, il parle comme il écrit, Chardonne. Enfin, des phrases sont là tout de suite. Bon. Donc, il s'intéresse à ces personnages-là qui sont... Oui, de grands écrivains, mais qui sont dans une situation un peu paradoxale d'être ne plus être tout à fait les grands écrivains d'une époque, mais presque des revenants, hein, voilà.
Et eux, ils le prennent sous son aile, ils disent c'était notre jeune homme, avec peut-être une pointe d'ironie.
Oui, mais ça ils l'ont dit aussi, j'imagine, de Jean d'Ormesson et d'autres. C'était à l'époque, ces grands vieillards cherchaient d'une certaine manière des dauphins ou en tout cas des continuateurs.
Alors les femmes aussi, Marie-Belle, Madeleine Renaud.
Les grandes actrices, oui, c'est vrai. Ouais. Oui, c'est pour ça que je dis qu'il est d'abord un critique de théâtre. On voit bien à quel point il aime le théâtre et à quel point... alors en plus, là aussi, les dernières très grandes actrices du français, qui sont toutes des personnages, Lys de Harme. Enfin, quand il raconte cette scène un matin, Lys de Harme, il frappe chez Lys de Harme, il voit un type très beau qui sort de là, de chez cette vieille actrice. Enfin, donc il y a toute une scène déjà sur le gigolo et la vieille actrice. Et il saisit des moments comme ça et on a le sentiment en plus, c'est ça qui est fascinant avec le journal, quand on tient un journal soi-même, on a le sentiment que les faits viennent un peu à vous. C'est-à-dire que les scènes sont là, vous arrivez, puis la scène est déjà prête d'une certaine manière, vous n'avez plus qu'à la raconter. C'est comme si les autres se mettaient en scène par avance pour figurer dans votre journal.
Et c'est là tout son talent d'écrivain. Est-ce que vous diriez qu'il était moderne, Mathieu Gallet, ou plutôt au contraire un peu rétif à la modernité, vivant peut-être dans une autre époque?
Écoutez, je crois qu'il n'était pas dupe de la modernité. Je pense que quand il parle de Robe Grillée, il n'est pas dupe de la modernité.
Enfin, il n'aimait pas Robe Grillée, il n'aimait pas le nouveau roman, il n'aimait pas Claude Simon.
Voilà, bah, on peut le comprendre d'ailleurs, c'est pas à côté de Morand et de Chardonne et de Mauriac. Voilà, c'est peut-être un peu moins drôle, en tout cas ça l'inspire un peu moins lui. Mais en même temps, au théâtre, il est moderne, il aime Beckett, il parle de Beckett, il y a des magnifiques portraits de Beckett notamment. Voilà, donc je dirais qu'il est moderne dans le théâtre, un peu moins peut-être dans la littérature romanesque.
Ouais. Il n'est pas passé à côté de Françoise Sagan, dont il avait beaucoup aimé Bonjour Tristesse, mais il attendait de voir si Françoise Sagan, telle Radiguet, à qui il l'a comparée, allait écrire son Bal du Comte d'Orgel.
Oui, alors il dit d'elle qu'elle parle illisible, c'est étonnant cette façon de parler. Oui, et Sagan fait partie, effectivement, d'abord c'est un personnage en soi, et il voit bien... Je ne dis pas le génie de Sagan, mais le talent de Sagan, il n'est pas... Voilà. Après Mauriac, il y a Gallet, entre autres, qui l'ont vu.
Et Modiano?
Modiano, magnifique portrait, hein. Vous avez vu qu'il désigne comme une espèce de gazelle, comme
ça.
Ah ben
on va l'écouter, justement.
3 novembre. Modiano, prix Goncourt. Je l'aperçois, gazelle traquée dans un petit bureau par une meute de caméramen et de photographes, l'œil fou, hagard comme un assassin qu'on vient de surprendre sur le fait. Pour l'occasion, c'était rasé de près. Il est couvert de cicatrices, ce qui n'a pas empêché la barbe de pousser depuis ce matin. Blême, avec des taches rouges dues à l'abus de libation en ce grand jour, suant et dépenaillé, il est maculé d'encre noire car la bande de son bouquin n'est pas sèche. Entre deux portes, Je lui parle 5 minutes, avec la difficulté ordinaire. Il me dit avoir passé toutes les heures d'angoisse de ces jours-ci dans l'annuaire 1939 que je lui ai offert l'autre semaine. Soudain, il est là-bas, dans son monde obscur des années noires, très loin de la foule qui s'agite autour de lui. Il m'interroge sur Jane Surza et Django Reinhardt, mes voisins d'avant-guerre, comme si je les avais connus. Merveilleuse folie.
C'est tout de même un très beau portrait, Jean-Luc Barrès.
C'est magnifique. Vous pourriez aussi lire les portraits de Terzieff, par exemple. Les portraits de Terzieff sont magnifiques. Il a ce génie de saisir l'âme des êtres à travers leur physique. C'est-à-dire, vous savez, aujourd'hui on dit qu'il ne faut pas parler du physique des gens, mais ils voient, c'est à travers leur physique qu'ils voient au fond leur âme, leur secret, leur mystère.
Ils voient beaucoup des oiseaux d'ailleurs.
Toujours.
J'ai remarqué ça, je vous lis par exemple un portrait de Mauriac du 20 février 1955. Mauriac encore, à Gavot cette fois, les yeux fermés, il écoute ses concertos de Mozart, ses longs doigts se promènent comme des serpents familiers sur son crâne, son cou de pintade, voilà l'oiseau, émerge d'un col de fourrure, on dirait un animal préhistorique, à mi-chemin du reptile et de l'oiseau.
Moi qui ai écrit la biographie de Mauriac, je m'en veux d'avoir fait un portrait aussi beau. Non, c'est tellement juste.
Vous l'avez repris dans votre biographie.
Mais je ne suis plus. Non, je crois pas. Parce que non, j'essayais de faire les portraits moi-même, franchement. Mais sans peut-être y réussir à rivaliser avec Mathieu Gallet. Mais en tout cas, c'est tellement juste à la fois l'oiseau et le serpent. L'image du serpent pour Mauriac est parfaite. Et l'oiseau, celui qui échappe aussi. Alors, s'envole.
Roland Barthes, également du côté des volatiles. Curieux visage que celui de Barthes, une tête d'oiseau qui s'empâte vers le bas, le profil de Louis XVI. L'œil bleu, le sourire convexe, les dents belles, avec un air de mollesse dans toute sa personne, qui ne vient pas des traits mais du regard, placide, passif, posé, en accord avec le ton un peu affecté de la parole.
Ce qu'il faut souligner, on a parlé tout à l'heure des vétérans, mais il y a beaucoup d'intellectuels qui sont encore vivants, sont dans ce journal. Ce n'est pas un journal qui concerne uniquement les années 30, 40, etc. En tout cas, les survivants de l'époque. Il observe de près. Il y a des portraits. Vous auriez pu citer un portrait de Jean d'Ormesson qui est aussi incisif.
Il dit de Jean d'Ormesson qu'il pourrait être plus brillant.
Oui. Bon, il peut arriver qu'il soit pas toujours perspicace, notre ami, parce que c'est difficile d'être plus brillant que Jean, mais en tout cas, peut-être plus brillant. Non, il est pas, il voit tout de suite un personnage qui est intéressant, c'est qu'il voit, chez d'Ormesson, un personnage installé tout de suite. C'est-à-dire qu'il est qu'à 30 ans. Au fond, le portrait qu'il fait de d'Ormesson à 30 ans, on pourrait le faire, aujourd'hui. Au fond, le personnage de d'Ormesson est là tout de suite, comme son style, d'ailleurs.
Jean Val tient de la pintade et du poulet déplumé. C'est quand même une obsession pour les
oui,
volatiles.
Oui, ça, je ne peux pas vous dire l'origine de l'obsession.
Non.
Volatile. Mais c'est très utile de ce genre d'image, en tout cas, elle fixe. Mais c'est des personnages, en effet, qui sont tout à fait correspondants à ce genre de comparaison, en tout cas.
Patrice Géraud, un gros cul mou dans un jean flasque. Cheveux gras, les épaules tombantes, les hanches larges, les pieds en dedans.
Oui, il peut arriver qu'il y ait des règlements de compte entre homosexuels aussi, ça existe. Il y a une certaine sévérité par rapport à ce milieu qu'il... Après, il y a une tragédie dans ce milieu, naturellement, qui va s'installer à travers le sida, mais jusque-là, il est quand même... Il est assez implacable vis-à-vis de Jean-Louis Borry, d'autres gens. Il a un regard implacable sur ceux de son milieu, si je puis dire.
France Culture, la compagnie des auteurs. Nous parlons de Mathieu Gallet avec Jean-Luc Barrès, cet homme au fond sans illusion, tel que on le découvre dans la préface que vous avez fait à ses œuvres complètes.
Sans illusion, parce qu'encore une fois, il n'est pas, il naît lucide. C'est peut-être un drame, mais enfin, c'est ainsi.
Lucide et de quoi?
Lucide sur lui-même, sur la vie, sur les autres. Voilà, il y a quelque chose qui n'est pas. Je pense qu'il a jamais été naïf. Voilà. Comme ça, c'est une nature sans doute, jusqu'à n'est pas l'origine précise de cela, mais on a l'impression qu'il naît adulte d'une certaine manière et qu'il voit tout de suite, il faut dire qu'il Il est très sollicité par l'entourage très riche qu'il fréquente, etc. Donc, mais il observe.
D'ailleurs, il commence à 19 ans à écrire son journal.
Oui, vous savez, il y avait une formule de Mauriac qui disait qu'il était né espion. Eh bien, je trouve que Mathieu Gallet est né espion d'une certaine manière. Voilà, et c'est peut-être ça, être un écrivain aussi d'une certaine manière. Et il entre très vite dans le. Donc, il est sans illusion parce que il voit ce monde-là. Et puis, d'une certaine manière, son propre talent littéraire passe par cette clairvoyance, cette lucidité. Le journal l'encourage à ça parce que quotidiennement tenir un journal dans lequel vous racontez la vie des autres, ça nous entretient pas d'une sorte d'illusion par rapport à eux. Au contraire, ça vous rend de plus en plus voilà. Je pense qu'il a un regard perforant, hein, Mathieu Gallet, qu'il très tôt qu'il exerce sur les autres. Et puis il y a aussi, je dirais que l'homosexualité n'est pas d'ailleurs n'est pas pour rien là-dedans. Je pense qu'il vit à une époque où
mais il en parle très librement et il la vit aussi relativement librement. Enfin, en tout cas, c'est ce qu'on a l'impression.
Quand même, vis-à-vis de sa famille, c'est un peu compliqué. C'est pas évident tout de suite. Je veux dire, c'est pas par hasard quand même que la famille, notamment son père, a demandé à ce qu'on censure une partie de ce journal après sa mort. Donc, je veux dire, bien sûr, on a l'impression qu'il est très libre dans son journal parce qu'il raconte dans son journal. Mais je pense que d'une certaine manière, il vit une relation assez clandestine.
C'est pour ça qu'il n'a pas publié peut-être aussi ce journal de son vivant. Est-ce que pour sa famille, c'était trop difficile et aller à l'affrontement aurait été compliqué pour lui ?
Je pense qu'à l'époque où il aurait publié son journal, tout c'était clair. Il y avait la famille. Je ne pense pas que la question se posait par rapport à sa famille. Je parle plus de sa jeunesse, d'un certain moment de sa vie où effectivement, la famille le sait, mais en même temps, c'est quelque chose de totalement inavoué. Donc, et ça reste d'une certaine manière, je pense que pour beaucoup d'homosexuels de cette époque, ils sont obligés de se cacher. Il y a une part de blessure très vive qui entretient aussi un regard sur les autres. Et donc, voilà. Ça, et puis, il y aura dans sa vie ce moment où la maladie va le rattraper.
Maladie qu'il découvre, enfin, en 1984, c'est la maladie de Charcot.
Oui, qui est une maladie dont on ne guérit toujours pas. C'est une maladie atroce qui paralyse progressivement le corps jusqu'au moment où vous ne pouvez plus respirer. Enfin bon. Et donc, il apprend cela. D'abord, ce qui est incroyable dans sa vie, c'est qu'il tombe malade de cette maladie en pleine période de sida. Et il dit, c'est comme si j'attrapais la scarlatine en pleine période de la peste. Mm-hmm. Et tout le monde d'ailleurs pense qu'il est en train de mourir du sida.
Il avait aussi cette formule assez terrible, quand justement tout le monde pense qu'il meurt du sida, il dit, décidément on ne prête qu'aux riches.
Oui, mais ça, voilà. Vous voyez cette lucidité sur soi, il rit aussi de lui-même. Et ce qui est admirable d'ailleurs dans ce journal... le côté un peu perfide, méchant, pourrait être agaçant au bout d'un certain temps. Mais il y a cette fin où cet homme est confronté à lui-même à travers cette maladie et la manière dont il en parle, sans pathos, sans en faire trop, ironisant sur lui-même, se moquant du moment où il peut plus écrire, moment où il peut plus marcher, quand il faut le porter, et continuant à écrire jusqu'au bout, jusqu'à la dernière minute. Ça, c'est admirable. C'est admirable parce que il parle de cette maladie qui est terrible, qui est terrifiante, avec une forme d'élégance qui traduit à la fin peut-être un homme meilleur au sens d'une forme de. Il n'est pas que méchant, je dirais.
Il faudrait pas non plus donner aux auditeurs l'impression qu'il n'y a que des perfidies parce qu'il y a aussi des voyages qui sont racontés.
Bien sûr.
Dans
au Brésil,
ce journal,
entre autres, et en Inde, etc. Il voyage d'ailleurs encore plus. Bien sûr, il voyage à New York à l'époque où à New York on y va aussi pour des raisons précises et il s'amuse beaucoup à New York et il va d'ailleurs jusqu'où c'est un peu un homme des extrêmes aussi à sa manière, notamment sur le plan sexuel, mais il voyage beaucoup, il y a des descriptions merveilleuses encore une fois des pays qu'il voit. Ce livre c'est d'abord un enchantement littéraire, disons les choses telles qu'elles sont. La part de méchanceté elle est drôle, elle fera rire, elle plaira et les portraits sont très réussis, mais cette dernière partie sur la maladie, sur la vie qui s'éteint, est magnifique.
Merci beaucoup Jean-Luc Barré.
Merci à vous.
En terrain connu, puisque nous allons maintenant accueillir Cécile Guilbert pour parler d'un livre que vous avez également édité dans la collection bouquins chez Robert Laffont. Il s'agit des œuvres complètes de Bret Easton Ellis.
Vous voulez un peu d'argent ? Fais-je doucement. À manger ? Le clochard hoche la tête et se met à pleurer de gratitude. Je fouille dans ma poche, en tire un billet de 10 dollars, puis changeant d'avis, lui tend un billet de 5 à la place. Cela vous arrangerait ? Le clochard hoche la tête de nouveau et détourne le regard honteux. Son nez coule. « J'ai tellement faim !» me dit-il. « En plus, il fait froid dehors, n'est-ce pas ?» Un sanglot le secoue. « Pourquoi ne prenez-vous pas un travail ? » Fais-je le billet toujours en main, mais hors de portée du clochard. « Si vous avez faim à ce point, pourquoi ne pas travailler ?» Il inspire profondément, frissonne et répond enfin « J'ai perdu mon emploi !»« Pourquoi ? » fais-je avec réel intérêt. « Vous buviez ? C'est pour ça que vous l'avez perdu ?» Ou bien vous trafiquiez ? Il serre les bras autour de son corps et dit, suffoquant entre deux sanglots, « J'ai été viré, ils m'ont licencié !» Je hoche la tête. Mince. Ça, c'est moche. « J'ai tellement faim !» répète-t-il. Et il se met à pleurer à chaudes larmes.
Un extrait du roman American Psycho de Bret Easton Ellis, lu ici par Guillaume Gallienne. Bonjour Cécile Guilbert.
Bonjour.
Deuxième partie de notre émission. Vous êtes essayiste et romancière, auteur de plusieurs romans dont le dernier en date s'appelle Les Républicains. Il a paru il y a quelques mois aux éditions Grasset. Vous y racontez la politique contemporaine un peu comme Saint-Simon dans ses célèbres mémoires, c'est-à-dire d'une plume acérée. Vous êtes d'ailleurs l'auteur d'un récit intitulé Saint-Simon ou l'encre de la subversion, publié dans la collection L'Infini des éditions Gallimard. Gallimard, où vous avez publié également l'essai manifeste intitulé Pour de bord. C'était en 1996. C'est donc déjà un peu ancien, mais si je mentionne cet essai manifeste, ce n'est pas sans rapport avec le sujet qui nous occupe aujourd'hui, c'est-à-dire Bret Easton Ellis, dont vous avez donc préfacé il y a quelques mois les œuvres complètes en collection bouquin, parce que Bret Easton Ellis ne parle peut-être au fond de rien d'autre que de la société du spectacle dénoncée par Guy Debord. C'est en tout cas l'hypothèse que vous avez fait à l'époque, au moment où vous avez commencé à vous intéresser à Bret Easton Ellis.
Oui, et mais le paradoxe avec Bret Easton Ellis, c'est qu'il décourage constamment en fait la tentative de théorisation ou d'intellectualisation en fait de ses propres livres, à la fois par le discours qu'il tient sur son propre travail. Et aussi parce que la carrière de Bret Easton Ellis est complètement submergée par sa célébrité qui obscurcit en fait beaucoup de choses.
Alors qu'est-ce qui déjà, pour commencer, pourrait rattacher sa littérature à une idée de la société du spectacle selon Guy Debord ?
Si on pense que la société du spectacle selon Debord, ce n'est pas, si vous voulez, l'ensemble des procédures techniques par lesquelles les choses sont mises en représentation, mais que c'est en fait l'économie marchande devenue folle, en fait, on voit bien que les romans de Bret Easton Ellis s'inscrivent, et je pense surtout à deux d'entre eux qui sont American Psycho et Glamourama, qui est le roman qui est suivi, s'inscrivent dans effectivement dans le fétichisme marchand, dans une sorte comme ça de mise en boucle de la marchandise. Alors à la fois dans American Psycho par les litanies de marque et la façon dont les subjectivités sont en fait abrasées complètement par ce que les gens portent, ce qu'ils consomment, les objets, etc. Et dans Glamourama, par le fait que ce roman mettant en scène un certain nombre de mannequins, en fait là on a l'impression justement de enfin, que c'est les corps mêmes, si vous voulez, qui se définissent en fait comme des supports de marque. Et ça se passe dans le milieu de la mode, etc. Donc il y a tout un jeu, évidemment, avec tous ces fétiches marchands et ce capitalisme mondialisé qui se ressent. Mais il y a beaucoup aussi autre chose, c'est-à-dire qu'il y a aussi la manière dont le rapport de la vérité et du mensonge, du vrai et du faux, sont aussi faussés.
Et vous diriez qu'il y a de la distance entre l'auteur et ses personnages, ou est-ce que il décrit finalement sans aucune distance justement cette société marchande et de consommation ?
Je pense que ces livres donnent l'impression qu'il n'y a pas de distance, c'est-à-dire qu'il y aurait simplement le constat, le constat aplati. Et c'est aussi pour ça qu'il y a eu beaucoup de controverses critiques au sujet de la valeur, de la qualité de ce qu'était la prose de Bret Easton Ellis. Donc dans l'écriture, il y a, si vous voulez, un effet d'aplat. Il prend pas parti. Il y a une forme de neutralité glaçante d'ailleurs. Et en même temps, je pense que, évidemment, puisqu'il est capable de faire ça, il est beaucoup plus intelligent et rusé que ce qu'il a l'air de donner à lire.
Alors ça, vous avez essayé de le vérifier par vous-même. En 2000, c'était au moment de la parution de la traduction française de Glamorama. Il arrivait à Paris et vous avez inventé un petit stratagème que vous allez nous raconter pour le rencontrer.
Oui, c'est-à-dire qu'en fait, bon, il faut que je dise quand même que pendant très longtemps, notamment à la publication de son premier roman qui était Moins que zéro, je trouvais pas que les livres de Bret Easton Ellis étaient renversants, m'intéressaient guère. Je voyais bien qu'il y avait un symptôme.
Vous les aviez lus quand même.
Oui, je les avais lus parce que bon, je m'intéresse quand même à la littérature contemporaine et je sentais qu'il y avait comme ça une sorte de bruit qui arrivait avec Moins que zéro. Ce qui m'avait pas enthousiasmé, je voyais bien qu'il y avait un symptôme puisqu'il y avait quand même un succès planétaire. Bon, je sais aussi que ça n'a pas été facile pour lui de le publier, ce premier roman. Il y avait quand même beaucoup d'éditeurs qui voulaient pas le publier, qui trouvaient ça pas terrible, etc. Bon, enfin, il y avait un symptôme dans le sens où, la même façon, quand Houellebecq a sorti ses premiers livres, il y a un symptôme dans le fait même que ça va au-delà de la littérature, c'est-à-dire que ça décrit quelque chose qui est aussi de l'ordre sociologique, d'un état d'esprit, d'un zeitgeist, comme on dit, un esprit du temps.
Il y a quelque chose de commun d'ailleurs entre ces deux écrivains.
Alors, il n'y a rien de commun sur le plan de l'écriture et peut-être même sur le plan de l'horizon romanesque, mais il y a quelque chose de commun qui sont le moment historique où ils surgissent et la capacité qu'ils ont à révéler, hein, au sens apocalyptique du terme, révéler le nihilisme en cours, en fait, d'une certaine façon, le nihilisme planétaire en cours, avec des procédures différentes, plus sociologiques chez Houellebecq, plus glamour en apparence comme ça, et plus cruel chez Bret Easton Ellis. Enfin bon, il y a des points communs, même si ça n'a rien à voir. Et donc, bon, je me suis intéressé à ce symptôme, je me suis dit, mais comment ça se fait qu'un livre aussi creux, stylistiquement aussi plat, etc., rencontre cette résonance. Bon, évidemment, le scandale d'American Psycho a obscurci aussi l'intérêt que pouvait avoir le livre, parce que tout de suite, ça désamorce la lecture, si vous voulez. En fait, Bret Easton Ellis est constamment pris dans un effet de désamorçage, parce qu'il y a beaucoup de gens qui l'admirent pour de mauvaises raisons, et puis ceux qui s'intéressent beaucoup à la littérature et qui devraient essayer de repérer en quoi il est passionnant, en fait, le mettre de côté, si vous voulez. Ça m'a toujours frappé, ça, dans les gens qui s'estiment être de l'élite, des grands lecteurs, des amoureux de la littérature, à la traditionnelle française, si vous voulez, il y a toujours une sorte de mépris pour Bret Easton Ellis, parce qu'en fait, ils voient pas, ils sont rebutés par l'univers, et puis ils voient pas en quoi. Et puis alors, il y a aussi beaucoup de gens qui sont pas très avisés en littérature, qui trouvent ça formidable parce qu'il y a un effet de mode, il y a de la cocaïne et des mannequins. Vous voyez, bon, je caricature, mais c'est un petit peu ça, c'est-à-dire qu'il est admiré pour de mauvaises raisons et il n'est pas loué pour les raisons qui seraient légitimes. Je dois avouer que American Psycho m'a quand même assez impressionné, cette histoire de serial killer qui est un youpi, en fait. Mais surtout, celui qui, le roman, pour en revenir à la question que vous me posez, le roman qui me bluffe complètement, c'est Glamorama, qui est pour moi son chef-d'œuvre, et où ça va encore un cran au-dessus, et dans l'ambition romanesque, il y a plusieurs théâtres d'opérations en Europe, aux États-Unis. Et donc là, à ce moment-là, comme je sens qu'il a semé des indices un peu partout, et que ça fait déjà un moment qu'il a semé des indices, c'est-à-dire que je pense qu'il a vraiment un projet de faire ce qu'a voulu faire Dante à son époque, c'est-à-dire il y a vraiment des phrases qu'il a semées comme ça dans ses livres qui me font penser qu'on rentre en enfer, qui décrit une nouvelle région de l'infernalité contemporaine.
Oui, vous dites que c'est la nouvelle adresse du diable que recherche Bret Easton Ellis.
Elle est à Los Angeles, et à New York aussi, mais elle est aussi à Los Angeles. Et donc je décide effectivement que j'ai très envie de lui poser des questions. Bon, je suis pas journaliste, je fais un peu de critique littéraire comme ça en pigiste, et j'ai vraiment envie de lui poser des questions. Vraiment, ça me passionne. Je n'arrive pas à me faire accréditer par un magazine pour. Alors il fait une tournée de pop star, c'est des interviews minutées dans les grands hôtels, un peu comme quand les réalisateurs de blockbusters sont à Paris. Et je finis par trouver une amie complaisante qui vient pour un journal suisse l'interviewer et qui me dit, écoute, si tu veux, je t'emmène et je te laisserai 5 minutes ou 10 minutes à la fin pour que tu lui poses des questions. Enfin, plutôt 5 minutes ou même 3. Et donc, elle m'emmène avec elle et nous découvrons donc ce garçon joufflu, encore un peu juvénile, nourri au cornflakes, qui est dans sa suite, en chaussettes, et qui a l'air très sympathique et crevé parce qu'évidemment, il fait un marathon d'interviews. Elle pose ses questions, etc. Puis à la fin, je veux lui poser des questions parce que... Il y a un livre de Guy Debord au fond d'un sac Hermès dans Glamorama. Et donc j'ai envie d'interroger sur Guy Debord et je suis sûr qu'il l'a lu ou qu'il sait qui c'est, etc. Et puis en fait, il me fait des réponses extrêmement décousues, très vagues et il veut absolument pas se prononcer. Ce que je raconte pas dans la préface, c'est que je l'ai rencontré plusieurs années plus tard, alors qu'il était déjà détaché un peu de sa carrière de romancier puisqu'il est passé à Los Angeles maintenant faire des scénarios et travailler à des projets cinématographiques. Mais à la sortie de Imperial Bedroom, Suite Impériale, le dernier roman publié qu'il a publié, il y a une fiesta pour célébrer la sortie organisée par son éditeur. Et là, j'ai eu l'occasion vraiment de lui parler beaucoup en privé. Et là, il a été un peu moins fuyant et il trouvait que mes hypothèses étaient intéressantes, mais en même temps, il se dérobe.
Bien, donc, ce que vous en concluez, c'est qu'il y a quelque chose d'instinctif chez Bret Easton Ellis dans la description de la société telle qu'elle est aujourd'hui, mais il n'est pas ni dans la théorie, ni...
Non. Il n'est pas dans la théorie, et puis il n'est pas dans, si vous voulez, il y a certains auteurs qui savent exactement, qui calculent leurs effets, si vous voulez, qui sont ultra conscients de ce qu'ils font. Et bon, par exemple, je sais pas, si on prend quelqu'un comme Nabokov, c'est quelqu'un qui sait absolument ce qu'il fait. Je veux dire, qui calcule ses effets. C'est un artiste qui élabore des stratagèmes et des dispositifs narratifs ou artistiques dans ses livres et qui sait exactement ce qu'il fait. Une sorte de, comme ça, de conscience artistique puissante. Bret Easton Ellis réussit merveilleusement, mais de façon effectivement plus instinctive. On a l'impression qu'en plus, il a écrit, il a donné des interviews là-dessus. C'est vraiment quelqu'un qui a beaucoup souffert. Et ça me frappe beaucoup et ça me touche. C'est quelqu'un qui a beaucoup souffert et qui dit qu'en fait...
Qui souffre sans doute encore aujourd'hui.
Et qui souffre encore. Et donc, c'est une sorte de damné, si vous voulez. Mais c'est une sorte de damné qui aurait trouvé comme échappatoire d'écrire des romans sur ses souffrances, sa paranoïa, son mal-être, ses problèmes familiaux avec son père, etc. Et il réussit quand même à aller plus loin, évidemment, que la souffrance personnelle. Il arrive à englober comme ça toute une époque.
Vendredi 31 octobre, matin. Je me suis réveillé dans la chambre d'amis, incapable de me souvenir comment j'y étais arrivé. Mais je n'ai pas paniqué, j'ai accepté avec sérénité, puisque la chambre d'amis était un événement qui se produisait avec une régularité que je n'avais pas encore jugée alarmante. Mais je n'arrivais pas à me réveiller, parce que la gueule de bois était intense. Et accompagné de l'habituelle envie de baiser. Une érection douloureuse avait surgi de mon caleçon et je contemplais ça avec insouciance, sans rien faire. J'ai fini par me retrouver devant le miroir de la salle de bain de la chambre d'amis en train de m'examiner. J'avais le visage hagard et déshydraté d'un homme âgé de plus de 10 ans que moi et les yeux tellement rouges qu'on ne pouvait plus voir les iris. Je suis sorti de la pièce comme un fantôme. En traversant d'un pas lourd la salle de séjour, le fantôme s'est arrêté lorsqu'il a remarqué l'agencement étrange du mobilier. Le sofa à éléments, les fauteuils Le Corbusier et les tables Hims avaient été déplacés pour la fête et pourtant cette nouvelle disposition me paraissait bizarrement familière.
Un extrait de Lunar Park de Bret Easton Ellis, lu par Philippe Faure. Qu'est-ce que ça vous inspire, ce roman Lunar Park, et en particulier cet extrait, Cécile Gilbert? Est-ce qu'on peut y voir, comme vous l'avez vu, du Andy Warhol dans la démarche?
Non, je pense que Lunar Park est un roman quand même assez... Alors là, beaucoup plus incarné, du coup, beaucoup plus classique, d'une certaine façon. Hein. Lunar Park, il revient... c'est la première fois qu'il met en scène un écrivain...
Porte son nom.
Voilà, qui est un narrateur, donc il y a une part autofiction. En même temps, c'est un roman un peu à la Stephen King, d'horreur, d'angoisse. Je pense qu'il récapitule là un moment de ce qu'il a vécu, voilà, toutes les émotions et tout ce qu'il a pu vivre depuis ses débuts, quand même assez jeune. Et donc c'est pas du tout warholien. En fait, il est warholien quand il est en interview, quand il essaye comme ça de mettre en scène de façon neutre, sans juger, sans prendre parti, sans être dans un discours sur les valeurs. Là, il est warholien. Mais je pense pas dans Lunar Park, non.
Il y a la figure du père. dans Lunar Park, mais aussi dans American Psycho. C'est l'un des thèmes les plus présents pour vous chez Bret Easton Ellis, hein, Cécile Gilbert?
Je crois pas. Alors bon, moi maintenant, ma lecture est troublée parce que je sais aussi ce qu'il a raconté sur ses livres. En fait, il dit que Patrick Bateman, il a dit des choses contradictoires.
Donc le héros d'American Psycho.
Voilà, le héros d'American Psycho, qui est ce youpie de Manhattan, qui égorge des femmes, qui se livre à des actes de barbarie et qui vit comme ça dans cet univers de vacuité, accumulant les objets, les fétiches. Il a dit parfois que c'était une figure qui lui faisait penser à son père, parce que son père était un homme violent, brutal, et voilà, qu'il n'avait pas de très bon rapport avec lui, et qu'il incarnait peut-être ce matérialisme américain féroce. Et en même temps, il a aussi dit parfois dans d'autres entretiens qu'il était cet homme-là à l'époque où il a eu ce succès avec Moins que Zéro, qu'il était cette coqueluche de Manhattan qui sortait dans les boîtes de nuit, etc.
Il était très jeune aussi.
Il était très jeune et qu'il s'est laissé d'une certaine façon piégé par la question du statut, voilà, qui est comment on doit vivre quand on a un écrivain à succès à Manhattan, alors entouré de jolies femmes. Consommant, ayant des vêtements de marque, etc. Et il a aussi dit que Patrick Bateman c'était lui, et qu'il avait la haine finalement de ce qu'il avait pu devenir à travers cette célébrité.
Bah d'ailleurs, il dit que tous ces personnages, et c'est d'ailleurs un peu effrayant, sont un peu lui. C'est peut-être ça qu'on lui reproche en creux. C'est aussi de dire qu'il y a une part d'autobiographie, alors c'est peut-être aussi de la provocation hein, de sa part, dans chacun de ses romans.
Oui, mais je pense que tout écrivain écrit avec ses expériences et que même si les personnages sont pas des décalques de soi, on met toujours de soi partout. Je veux dire, on peut pas, que Dieu est dans toute sa création. Donc, un romancier, surtout omniscient comme ça, quand il manie le narrateur omniscient, il est forcément dans tous ses personnages. Donc, je sais pas, je crois qu'on lui a reproché aussi son succès, sa célébrité planétaire, il a été très envié, il a été détruit, mais il a aussi été détruit par le milieu éditorial, parce que c'est inhumain ce que lui ont fait ses éditeurs. Hein.
C'est-à-dire?
Bah, d'abord, ils ont refusé de publier American Psycho quand il a rendu son manuscrit, donc il a fallu qu'il trouve un autre éditeur. Bon, tant mieux pour lui, c'était Knopf et plus Simon & Schuster, mais donc c'était encore mieux. Mais bon, il a eu des menaces de mort. Bon, ça, c'est les.
Il était accompagné en permanence d'un garde du corps. Je sais pas si c'est encore le cas.
Menaces de mort des féministes, etc. Parce qu'en fait, son éditeur, pour effectivement faire monter le buzz, a laissé fuiter des passages qui étaient les plus atroces vis-à-vis de certaines femmes, puisque Patrick Bateman dépèce, torture des femmes, donc c'est ça qui a fuité dans la presse. Donc les féministes sont montées au créneau, voulaient le tuer, enfin bon, bref. Et puis après, si vous voulez, on lui a organisé un marathon promotionnel qui prenait des années. C'est-à-dire qu'en fait, sur le temps de l'écriture, son temps de l'écriture était réduit à portions congrues. Pour un écrivain, chaque écrivain, même de plus modeste, vous dira que bon, ce qui l'intéresse, c'est d'écrire, publier, c'est très agréable, mais qu'après, la promo, bon, faut point trop d'en faux, quoi. Et lui, il partait comme ça pendant des années faire le tour de la Terre, défoncé à la cocaïne pour tenir, etc. Donc je pense que il a été vraiment malmené par et puis maintenant on dit ah bah le pauvre il se fait exploiter à Hollywood, mais il était déjà exploité par le milieu éditorial, donc il y a
parce que là il n'écrit plus, il ne fait que des scénarios.
Alors ce qu'il dit maintenant, c'est que de toute façon il est arrivé à un point où il a plus envie d'écrire de romans pour l'instant. On ne sait pas s'il en écrira encore un jour, mais de toute façon il y a une sorte de bouclage de son œuvre, hein. Quand on prend maintenant la totalité de ses livres, on voit bien qu'il y a un effet de bouclage. Bon, on pourra en reparler pour deux ou trois raisons. Et maintenant il est retourné vivre à Los Angeles où il collabore à des scripts, il a des projets de films, etc.
Il a son podcast où il a assez peu parlé, voilà. D'ailleurs, les personnes qui l'invitent.
Il a ses followers, etc. Et alors, ce qui m'amuse, c'est la naïveté, si vous voulez, qui consiste à dire mais pour un écrivain, aller à Hollywood, c'est l'enfer, on le sait bien, on a vu Faulkner, on a vu Fitzgerald, etc. Mais c'était déjà l'enfer avant pour lui, de toute façon. Donc, si vous voulez, il n'y a pas de différence, en fait.
Chaque livre que j'ai écrit est un miroir de ce que je suis à un certain moment de ma vie. Si on regarde les sept livres que j'ai écrits ensemble, c'est très étrange. Chaque fois que je le dis, je trouve ça étrange. Sept livres sur 25 ans. J'aurais souhaité qu'il y en ait eu plus. Mais bon, passons. Je regarde ces sept livres comme une autobiographie émotionnelle. Je peux regarder chacun de ces livres et dire « Ah ouais, tu ressentais ci et ça en 82, ah oui, en 98, ah 2004, ah ouais, on ressentait comme ça. » Donc quand je regarde ces 25 années à travers les livres, et je vois ces sept livres comme faisant partie prenante d'un projet que j'ai terminé avec Suites Impériales. À la fin de Suites Impériales, il y a ces deux dates, 1985-2010. Et je vois cela comme un cycle de travaux que j'ai terminé.
Un cycle de travaux que j'ai terminé, disait Bret Easton Ellis à François Bunel dans cette archive, Cécile Gilbert. Et pour vous, en effet, il y a, et on le voit bien quand on prend en main les deux volumes des œuvres complètes chez Bouquin que vous préfacez, il y a une cohérence à toute l'œuvre.
Oui, alors ça m'a beaucoup frappé parce que je m'en étais pas rendu compte en fait avant de travailler à cette préface, c'est que d'abord je me suis aperçu d'une chose, c'est que Imperial Bedrooms, qui est le dernier roman de Bret Easton Ellis, en fait traduit par Suite Impériale, est un album d'Elvis Costello, qu'il aime beaucoup par ailleurs. Bon. Et je me suis rendu compte que Less Than Zero est, si vous voulez, le titre d'une des chansons de cet album. Et en fait, je me suis dit, mais en fait, il connaît trop la pop et trop un enfant de l'Amérique, en fait, pour pas... En fait, avoir voulu boucler avec Imperial Bedrooms, quelque chose qui serait comme un concept album émotionnel, comme il le dit. Et bon, le coup formidable, c'est effectivement d'avoir pris dans Imperial Bedrooms, qui clôture en fait ce cycle de sept livres, les mêmes personnages que dans Moins que Zéro, et de les transposer 25 ans plus tard, toujours à Hollywood, toujours d'années. Alors, ils sont plus les fils de producteurs, d'agents, d'impresarios, de tout ce milieu voilà, de Hollywood. Ils sont, eux, devenus eux-mêmes... les agents, les impresarios, les scénaristes, et ils grenouillent toujours dans ce milieu, et toujours avec les mêmes obsessions, la pornographie, la cam, le cul, bon, voilà. Et donc ça, c'est déjà l'indice, comme ça, d'une... Et puis, par ailleurs, il y a aussi une chose dont on se rend pas compte, parce que finalement, et c'est pour ça que c'est bien d'avoir des œuvres complètes, c'est que quand on lit les titres de Bret Easton Ellis séparés comme ça dans le temps, avec les délais de traduction de plusieurs années, de toute façon, son écriture provoque une amnésie. On a beaucoup de mal, si vous voulez, à se souvenir d'une intrigue ou de, parce que toute l'écriture de Bret Easton Ellis vise à produire, puisqu'elle est le reflet elle-même de ce maelstrom, comme ça, une information chasse l'autre, on est dans du gossip, on est dans des situations évanescentes. Mais quand on relit tout, on s'aperçoit qu'un certain nombre de personnages reviennent de livre en livre, en fait. Les gens qui étaient dans Zombie, son recueil de nouvelles paru après Moins que Zéro, c'est les mêmes personnages qu'on va retrouver dans Lunar Park, dans Patrick Batman, etc. Alors, ils s'amusent avec ça, mais en même temps, c'est un côté comme un peu balzacien de la réapparition des personnages. Et on se dit, bon, bah là, il y a une totalité humaine, une comédie pas humaine, inhumaine, d'une certaine façon, et cet effet de clôture et de totalité est renforcé aussi.
C'est pas une référence explicite pour lui, Balzac?
Ah, pas du tout, non, je crois pas. Et je crois
pas qu'il l'a lu?
Je ne sais pas. Il a
pensé que c'est quelqu'un qui lit beaucoup.
Je n'en ai aucune idée. Mais je pense qu'il lit beaucoup ses contemporains parce qu'il est très attentif à ce qui se publie aux États-Unis. Par exemple, il a beaucoup lu Franzen, Donna Tartt, qui était aussi une de ses condisciples, etc. Donc, je pense qu'il s'intéresse beaucoup à ce que devient la littérature américaine et à ce qui se produit aujourd'hui, alors qu'il n'est plus lui-même dans le job, si je peux dire. Je ne sais pas du tout s'il lit de la littérature traduite.
Alors, il y a deux tomes à ces œuvres complètes. On sent l'évolution de Bret Easton Ellis d'un tome à l'autre. Je crois que pour vous, le deuxième est plus intéressant que le premier. Est-ce qu'il y a de la maturité au fur et à mesure qui s'installe chez cet écrivain?
De la maturité...
Ou littéraire.
Sans doute, oui, mais de toute façon, ce qu'on peut noter quand même, c'est que, bon, à part le dernier, je sais que le dernier a déçu, parce que c'était un opus un peu plus petit, et que c'était une sorte de, Less Than Zero, un peu transposé, avec comme ça une intrigue un peu lâche, ce qu'on peut dire quand même, c'est qu'entre American Psycho, Glamourama, Lunar Park, je veux dire, il y a une sorte de montée en puissance quand même de l'ambition littéraire, hein, ce sont de gros romans qui lui ont coûté chacun 7 ou 8 ans de travail. Donc il y a vraiment quelque chose comme ça d'une totalité, d'une ambition littéraire qui est énorme. Et je pense qu'il minimise beaucoup les choses quand il dit « bon voilà, il a beaucoup travaillé ».
Et vous pensez qu'il faut rentrer par quel roman de Bret Easton Ellis si on n'a pas encore lu l'un d'eux?
Je pense qu'il faut lire « Glamourama ». Ou Lunar Park, mais moi je conseillerais plutôt Glamourama qui me semble vraiment son meilleur livre.
Vous pensez qu'il a réellement arrêté d'écrire?
Je pense qu'il est tellement rusé en sous-main et sans vouloir jamais l'avouer que je ne suis pas sûr qu'il ait dit son dernier mot en littérature.
Merci beaucoup, Cécile Guilbert. Je rappelle votre dernier livre. Il s'appelle Les Républicains. Il est sorti en janvier 2017 chez Grasset. Et puis, bien sûr, votre préface donc aux œuvres complètes de Bret Easton Ellis. Vous avez également préfacé, toujours chez Bouquin, un volume Nabokov et un autre sur sa chère Mazoc. Merci également à Jean-Luc Barry qui était avec nous dans la première partie de cette émission. Les œuvres complètes de Mathieu Gallet sont à redécouvrir dans la même collection Bouquin. Tout de suite sur France Culture, vous retrouvez la poésie Jacques Bonafé.
Bonjour, bonjour la compagnie. Étonnant voyage au pays des pages de Bernard Collin. On y est saisi non pas par une écriture automatique, non, par la surprise des enchaînements. Hein. Il faut parler ici de la parataxe. L'abondance des parataxes dans ces textes, hein, qui sont, par opposition à l'hypotaxe, le fait que des propositions dépendantes l'une de l'autre par le sens soient juxtaposées sans qu'apparaisse aucune marque explicite de leur lien. Vous m'avez suivi ? Prenez les arbres par le sommet. C'est facile, arracher les arbres comme de l'herbe, la facile journée, la facile pensée. Pensez que si l'on vous jette une pierre, ce serait bien d'ouvrir la bouche, de l'avaler. Facile vient de faire, ce qui est déjà fait, personne ne veut l'écrire. Une écriture plus grosse que le ventre, plus grosse que la montagne avec des lions autour, des bœufs entiers, les bœufs avec les cornes et les deux doigts fourchus et le ruissellement de la graisse. Vous croyez que vous allez exciter l'appétit ? Quelque chose qui excite, quelque chose qui ruisselle. Quelque chose qui ruisselle, c'est le dernier mot. Qu'est-ce qui ruisselle? On entend. Ah oui, la richesse. Les riches ruissellent. La richesse ruisselle, bientôt. On vous enferme pour des accès de rire, pour avoir sonné la cloche à 1h du matin sans raison suffisante. Cloche active, comme on dit qu'un peintre est actif entre une date et une autre. Un fantôme sonne en pleine nuit, c'est une légende que le bruit des cloches attire la foudre. Le bruit ne fait pas plus tomber la foudre qu'il n'éloigne le tonnerre ou le tocsin attendu, ou celui qui attend un signe pour se mettre en route des accès de rire et des cloches sonnant la messe en pleine nuit. Vous avez perdu la tête, une gaieté sans comprendre chez ces personnes. Je demande si on vous enfermerait pour des pleurs sans raison suffisante. Le médecin avait écrit « Lavez vos yeux dans vos larmes ». Et le matin suivant, après la nuit où les cloches au travail pendant que le troupeau dormait, je regarde une souris jouer dans la cour le matin suivant, jouer et danser et faire des figures dans le manège, voltiger la souris sur son cheval de bois. Infatigable pirouette, regarde la voltigeuse souris et après mille exercices, j'admets qu'une saleté légère, la fraîcheur du vent, qu'une touffe de poussière danse dans la cour. Poussière et des mouches dans la pensée de celui-là. Après chaque exercice, le dresseur donne un poisson à l'otarie. À la fin de chaque ligne, il y a des hommes qui lèvent la tête pour voir si une récompense, renverser les tables, culbuter les bancs des nageurs, des rameurs, l'argent sur les tables, les victimes sur l'autel, les viandes dans les plats, l'abondance sur vous, sur elles, sur eux, les oiseaux sur un rang et les timbales derrière les trompettes. Ne pas croire que tout ce texte s'enfile et s'enchaîne, il est rythmé par ses virgules, ses respirations. Si vous sentez l'injustice, et elle par-dessus, elle couvrant tous les crimes de la terre, séchez-vous le nez et debout, dehors. Malheur à cet endroit, se laisser prendre sans se débattre, sans faire un geste. Tout le monde dit ce que vous dites, je sens bien, je sens mieux, je ne me trompe pas sur ce que je sens. Cet endroit est plongé dans l'erreur qui est plongé dans un sac. Vous sentez que vous êtes sur la terre, vous êtes dessus. Vous croyez que vous sentez, que vous marchez. Votre amour n'a pas grandi ce matin, votre amour n'est pas plus beau ce matin. Tout ce qui menace, tout ne bouge pas ensemble, conversion des navires, conversion des pensées. Une pensée de croissance, un arbre grandit, il règne, il s'allonge, il se couche, ne pas s'éloigner de la terre. Un arbre grandit comme un serpent, grandit comme un nageur.
Merci Jacques Bonafé.